Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 30 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, début de la tournée africaine du secrétaire d'État américain John Kerry. Calme précaire à Bangui, après une nuit de violence qui aurait fait au moins 10 morts.
De nombreuses familles ont abandonné leur domicile par crainte d'une nouvelle violente flambée.
6 membres des forces armées congolaises tués dans des affrontements avec des rebelles dans l'est du pays. Malgré les attentats, les Irakiens se sont rendus aux urnes pour les premières législatives depuis le départ des soldats américains. Expulsion massive de Congolais de la RDC par le gouvernement de Brazzaville.
Ce qui nous a choqués, ce sont les conditions dans lesquelles les personnes ressortissantes de la République démocratique du Congo ont été expulsées de Brazzaville.
Ici aux États-Unis, une exécution ratée dans l'Oklahoma relance le débat sur la peine de mort. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission. Mais avant, le journal.
Tournée en Afrique du secrétaire d'État américain John Kerry. Le secrétaire d'État est donc en ce moment en Afrique, en Éthiopie, où il doit avoir des entretiens sur un certain nombre de sujets de préoccupation en Afrique. Le point avec Lionel Gaïma.
Notre envoyé spécial Scott Stearns, qui accompagne le secrétaire d'État, dit que John Kerry est arrivé mercredi soir dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Il s'entretiendra demain avec les ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Kenya autour de la crise au Soudan du Sud. Et selon un haut responsable du département d'État, M. Kerry aura des messages forts et pour le gouvernement de Salva Kiir et pour les rebelles. Autre thème de discussion envisagé par le secrétaire d'État durant son séjour à Addis, la crise en Centrafrique. Il discutera avec les responsables de l'Union africaine sur la situation à RCA, où un climat de violence persiste avec des attaques tantôt par les ex-Seleka, tantôt par les anti-Balaka. M. Kerry doit se rendre à Kinshasa samedi pour rencontrer le président Kabila. Dimanche, il sera en Angola pour des entretiens avec le président Dos Santos avant de regagner Washington lundi prochain.
En RCA, calme précaire au centre de Bangui après une nouvelle tension hier dans une partie des 3e et 5e arrondissements. Plusieurs quartiers proches de PK5 ont été secoués mardi soir par des tirs à l'arme automatique. Selon certaines sources, au moins une dizaine de personnes ont été tuées et plusieurs blessées. On fait le point avec Félix Yepassis Zembro.
La tension était vive toute la journée dans ces quartiers qui ont été le théâtre d'affrontements à l'arme automatique une bonne partie de la nuit. De nombreuses familles ont abandonné leur domicile par crainte d'une nouvelle violente flambée. Dans les quartiers Bazanga, Fondon et Sara, des habitants font état d'une dizaine de civils tués et de nombreux blessés. Ils accusent des groupes de musulmans armés d'avoir mené des représailles suite au lynchage d'un jeune musulman au quartier Fatima, par des individus assimilés aux anti-Balaka. De son côté, le porte-parole des musulmans de PK5, Ousmane Abakar, a reconnu le mouvement de colère des jeunes sans confirmer le nombre des personnes tuées. Des blindés de l'opération Sangaris ont multiplié les patrouilles au PK5 et un hélicoptère de combat survolait le secteur. Ailleurs, à l'intérieur du pays, le convoi des musulmans de PK13 est finalement arrivé hier matin à Kabo. 287 déplacés sont restés sur place, pendant que le reste, 1113 déplacés musulmans, seront transférés à Sido, à la frontière tchadienne.
En RDC, 6 soldats de l'armée nationale ont trouvé la mort aujourd'hui dans le Nord Kivu, dans des affrontements avec les rebelles de l'APCLS. L'information a été confirmée par le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass. Par ailleurs, la MONUSCO a indiqué que la traque des rebelles ougandais du groupe ADF Nalu se poursuit dans l'est de la RDC. Et les autorités de Kinshasa avaient annoncé le 14 avril la prise de la dernière base de ce mouvement dans la province du Nord Kivu.
Fin de visite de Navi Pillay au Soudan du Sud. Le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme affirme que les belligérants ne sont pas préoccupés par une possible famine dans le pays. Nicolas Pinault.
Oui, après deux jours dans le pays, Navi Pillay s'est déclaré choqué après ses entretiens avec Salva Kiir, le président, et Riek Machar, l'ex-vice-président. La diplomate onusienne affirme que les deux frères ennemis ne sont pas favorables à un mois de trêve qui pourrait permettre à la population d'aller cultiver les champs et ainsi éviter une famine. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Soudan du Sud. Présent également à Juba, Adama Dien, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide. Selon le Sénégalais, les Nations Unies ne permettront pas qu'un génocide se produise comme celui perpétré en 1994 au Rwanda. Les incitations à la haine et les tueries sur des bases ethniques font craindre que ce conflit dérape dans une violence grave qui échappe à tout contrôle, avertit Adama Dien.
Violente manifestation de collégiens et lycéens à Niamey, la capitale du Niger. Des centaines d'élèves étaient dans la rue pour réclamer de meilleures conditions d'études. Ils auraient jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Sur ce qui s'est passé, écoutons Anassa Djibrila, président de l'Union des scolaires nigériens, joint à Niamey.
Bon, ce qui s'est passé aujourd'hui entre les élèves et les forces de l'ordre est lié à l'arrestation de 9 de leurs camarades au niveau du lycée Issa Korombé. Une arrestation qui fait suite à la sortie de ce lycée pour faire des revendications liées aux ventilations, aux ampoules et autres questions. Donc, c'était la semaine passée. À la suite de cette manifestation, il y a eu des casses, un véhicule qui était brûlé et des motos. La police judiciaire a dû mettre la main sur les premiers responsables de cette école. C'est relativement à cette arrestation que les lycéens et collégiens de la ville de Niamey ont exigé la libération de ceux qui étaient détenus à la police judiciaire. Aujourd'hui, dans les environs de 13h-14h, on les a libérés.
Anassa Djibrila, le président de l'Union des scolaires nigériens, nous parlait de Niamey.
Au Burkina Faso, les responsables de la Société nationale d'électricité ont accepté de supprimer certaines pénalités imposées aux abonnés. La mesure fait suite à un sit-in organisé hier devant les locaux de la Sonabel. Pendant 2 heures, les manifestants ont protesté contre les délestages récurrents et ce qu'ils appellent le manque de transparence dans la gestion de ce secteur. Les organisateurs qui avaient formulé cette revendication ne sont pas satisfaits. Marcel Tamkwano est le président du M21, une organisation de la société civile.
Il faut dire que la Sonabel a réagi et même si cela ne suffit pas, parce que la Sonabel à l'heure actuelle a levé ce qu'on appelle les pénalités et les redevances. Les pénalités, ça dit tout simplement ceux qui viennent payer le courant en retard. Donc, il y a une petite somme qui retient, je crois que 2000 à 2500, ce qui peut même arranger la population et si la Sonabel pouvait définitivement supprimer les pénalités et les redevances. Parce que nous estimons que ça ne sert à rien de prendre des pénalités ou bien des redevances alors que la population elle-même l'électricité est plus de 30 jours.
Les 7 revendications n'ont pas toutes été satisfaites. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mouvements, d'autres manifestations dans les jours qui viennent?
Oui, dans les jours qui viennent, si les coupures et les messages continuent, c'est sûr qu'il y aura d'autres mouvements qui sortiront vraiment pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à ces coupures de courant. Oui.
Marcel Tamkwano du mouvement du 21 avril, joint à Ouagadougou.
Toujours au Burkina Faso, la justice s'est déclarée incompétente sur la demande d'exhumation des restes de Thomas Sankara. Le dirigeant burkinabé a été tué en 1987 lors du coup d'État qui a porté au pouvoir l'actuel président Blaise Compaoré.
Un membre influent du Sénat américain a décidé de bloquer la reprise de l'aide militaire à l'Égypte suite à la condamnation à mort de 683 partisans du président déchu Mohamed Morsi. Le démocrate, Patrick Leahy, président de la sous-commission ayant la tutelle du budget des affaires étrangères et de l'aide internationale, a annoncé qu'à ce titre, il avait décidé de bloquer le versement de 650 millions de dollars demandés par le Pentagone le 25 avril. Le sénateur Leahy dit vouloir des preuves convaincantes sur l'engagement du gouvernement intérimaire soutenu par les militaires égyptiens à respecter l'état de droit. L'annonce a été faite hier alors que le ministre égyptien des Affaires étrangères Nabil Fahmy rencontrait son homologue américain John Kerry à Washington.
Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Irakiens ont bravé la menace de la violence pour se rendre aux urnes aujourd'hui. Il s'agissait des premières élections générales du pays depuis le départ des troupes américaines en 2011. Nathalie Barge nous en dit plus.
Quelques 20 millions d'électeurs irakiens doivent choisir 328 députés sur plus de 9000 candidats. Un scrutin sous haute surveillance policière, tandis que les véhicules ont été interdits de circuler dans Bagdad. Malgré les mesures de sécurité, des bureaux de vote et des électeurs ont été la cible d'attentats dans le nord et l'ouest de l'Irak. Des attaques qui ont fait au moins 11 morts. Exerçant son devoir de citoyen dans la capitale, le Premier ministre Nouri al-Maliki a appelé les Irakiens à se rendre massivement aux urnes. Je ne veux pas que les citoyens ratent leur droit de participer à l'élection. J'espère voir un grand nombre de participants. Si Dieu le veut, nous célébrerons le succès des élections et la défaite du terrorisme et de ceux qui pariaient sur le report du scrutin, a dit le Premier ministre. Le vote a été boycotté par les insurgés sunnites. Les factions anti-Maliki l'accusent de monopoliser le pouvoir et d'accentuer les dissensions dans le pays.
En Ukraine, le président par intérim Oleksandr Turkhinov décrète l'état d'alerte total pour le combat face à une possible intervention des forces russes massées à la frontière de son pays. Michel Joseph.
Des hommes armés pro-russes ont saisi un autre bâtiment gouvernemental tôt ce matin dans l'Est. En début de semaine, des centaines de séparatistes pro-russes s'étaient déjà emparés de plusieurs autres bâtiments, dont un bureau du procureur à Lugansk et la capitale provinciale Donetsk, où ils ont annoncé un référendum sécessionniste pour le 11 mai. L'annexion de la Crimée par la Russie a fait suite à un vote similaire le mois dernier. À Moscou même, le président russe Vladimir Poutine a menacé de réexaminer le rôle des investisseurs occidentaux dans le secteur clé de l'énergie si Washington et l'Union européenne maintiennent leurs sanctions. Le secrétaire d'État américain John Kerry a, lui, demandé à Moscou de laisser l'Ukraine en paix, ajoutant que la présence militaire russe dans ce pays est une tentative de modifier le paysage sécuritaire de l'Europe de l'Est.
Combat aux Philippines entre forces gouvernementales et combattants islamistes. Les autorités annoncent un bilan d'au moins 15 morts. L'armée affirme que les combats ont éclaté dans la jungle lorsque des rebelles d'Abu Sayyaf ont tenté de reprendre un camp pris lundi par les troupes gouvernementales.
Et puis, sachez aussi que les chances de retrouver le Boeing disparu de la Malaysia Airlines s'amenuisent. Les recherches aériennes sont officiellement terminées. Les avions militaires ont donc quitté la zone où l'on pense que l'avion s'est écrasé dans l'océan Indien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Timothée Donongmaï. Vague d'expulsion des ressortissants de la RDC à Brazzaville, la capitale de l'autre Congo. La police mène une opération destinée à arrêter et expulser des étrangers présumés criminels. Plus d'un millier de ressortissants de la RDC ont donc été refoulés dans le cadre de cette opération. Mais de l'autre côté du fleuve, elle fait grincer des dents. Par exemple, au sein de la Voix des Sans-Voix, une organisation des droits de l'homme. Écoutons Rostin Maketa, directeur adjoint de la Voix des Sans-Voix.
Pour nous, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, nous ne sommes pas contre les expulsions en elles-mêmes, mais ce qui nous a choqués, ce sont les conditions inhumaines, infrahumaines, dans lesquelles les personnes ressortissantes de la République démocratique du Congo ont été expulsés de Brazzaville. Il y a eu des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il y a eu la pratique de la torture sur des personnes. Il y a eu même des viols de femmes et des allégations même de mort ont été avancées par les nombreuses victimes expulsées qui se trouvent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le Congo Brazzaville a le droit d'expulser de son territoire toute personne accusée de commettre des crimes ou de séjourner irrégulièrement en République du Congo, mais cela ne les autorise pas, n'est-ce pas, à violer les instruments juridiques au niveau régional et international en matière de promotion et protection des droits humains.
Est-ce que vous semblez avoir été écouté? Est-ce que des mesures ont été prises pour améliorer la situation de vos ressortissants qui viennent de l'autre côté de la rive?
Aux autorités d'abord du Congo-Brazzaville, nous leur demandons, au nom du respect des droits humains et de la dignité humaine, de cesser immédiatement et sans délai à toutes ces expulsions inhumaines, des expulsions qui ne respectent nullement les droits humains. Et nous en avons appelé à la mise en place d'une commission d'enquête mixte indépendante composée des officiels des deux pays, des défenseurs des droits humains nationaux et internationaux, en vue de mener une enquête qui doit permettre d'établir les responsabilités, de faire la lumière sur ce qui s'est passé et de sanctionner les coupables. Aux autorités de la République démocratique du Congo, nous leur demandons de continuer à appeler la population au calme, de protéger les droits et libertés fondamentales de tous les ressortissants de la République du Congo vivant en République démocratique du Congo, afin d'éviter que des actes similaires à ceux qui se sont passés à Brazzaville ne se commettent en République démocratique du Congo, parce que les deux peuples sont deux peuples qui ont des relations de fraternité, des relations de consanguinité, et les deux peuples sont appelés à vivre en paix.
Voilà, c'était Rostin Maketa, directeur adjoint de La Voix des Sans-Voix.
En Mauritanie, manifestation hier à Nouakchott des Haratines, c'est-à-dire la communauté des anciens esclaves. Ils réclament leurs droits économiques et socioculturels, de même que politiques. C'était aussi l'anniversaire du manifeste du 29 avril 2013. Idriss Fall a joint à Nouakchott Malik Fall, un des initiateurs de la manif.
Être haratine en Mauritanie veut dire être issu de la communauté des anciens esclaves. Ils ont manifesté effectivement pour réclamer leurs droits économiques, socioculturels et politiques. Fêter le premier anniversaire du manifeste du 29 avril 2013.
Et c'est quoi ce manifeste?
C'est un document, effectivement, qui un peu fait le diagnostic global de la situation des haratines dans le pays, au niveau de leur représentativité au sein de l'administration, mais également au sein du commandement et à toutes les structures étatiques. Donc l'idée du manifeste, c'est effectivement de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les préoccupations majeures des haratines. Mais la dimension importante que les initiateurs du manifeste ont compris, c'est qu'effectivement, il y a lieu de ratisser large, faire en sorte que toutes les autres composantes de la communauté mauritanienne puissent adhérer à ce document. C'est ainsi qu'effectivement les Wolofs, les Poulards, les Soninkés et les Bédanes ont été effectivement associés à la manifestation d'hier.
Est-ce qu'on peut dire que les Haratines sont des citoyens de seconde zone en Mauritanie?
Oui, la triste réalité, c'est qu'ils sont exclus du système. Et le drame, c'est qu'ils sont majoritaires. C'est la plus grande composante nationale. Malheureusement, l'esclavage ou le tort que les Haratines subissent est un mal historique qui les suit depuis très très, très longtemps, et qui constitue un obstacle majeur à la cohésion nationale et au développement du pays, tout court.
L'esclavage, ce n'est pas encore terminé en Mauritanie, je croyais que c'était aboli.
Non, il y a une volonté politique affichée à travers la création d'une agence pour juguler les séquelles de l'esclavage. Il y a des lois, il y a une cour spéciale pour juger les crimes d'esclavage et autres. Mais la réalité du terrain est qu'effectivement, la pratique est encore persistante dans certaines zones de la Mauritanie.
Malik Fall, un des initiateurs de la manifestation hier des Haratines à Nouakchott, en Mauritanie.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Un entretien exclusif avec le secrétaire d'État américain John Kerry, avec en toile de fond sa tournée en Afrique cette semaine. L'occasion de décrypter la politique américaine pour l'Afrique subsaharienne. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
En Guinée, la principale organisation syndicale menace de déclencher une grève illimitée à partir du 13 mai prochain. Hier, les leaders syndicaux ont reçu le ministre de l'Emploi, mais cette rencontre n'a pas dissuadé le mouvement qui exige le respect d'un accord tripartite signé il y a 2 ans. Correspondance de Zakaria Camara.
Au mois de décembre 2012, le gouvernement guinéen, le patronat et les syndicats signent un accord dans lequel le salaire des fonctionnaires guinéens doit connaître une augmentation progressive de 50%. Mais si le SMIG, salaire minimum interprofessionnel fixé à 440 000 francs guinéens est une réalité, le statut particulier des enseignants et des médecins constitue aujourd'hui des exigences du mouvement syndical guinéen. Selon Amadou Diallo, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, si rien n'est fait avant le 13 mai, une grève générale illimitée sera déclenchée.
Actuellement, on parle de la santé, n'est-ce pas, et des enseignants. Donc c'est ce qui actuellement va être fait dans le meilleur délai. Si nos revendications sont satisfaites, on peut suspendre. Mais si elles ne sont pas satisfaites, on ira le 13 en grève. Et ça, c'est clair.
C'est une négociation, a dit le ministre de l'Emploi et porte-parole du gouvernement. Albert Damantan Camara a voulu rassurer les syndicalistes de la volonté du gouvernement d'accorder une attention à leurs revendications.
L'aspect le plus urgent ces jours-ci, c'était les revendications liées au secteur de l'éducation et de la santé. Et donc, nous sommes venus voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour désamorcer cette crise naissante. Leur dire que nous restons mobilisés pour satisfaire leurs obligations, présenter des excuses, parce que s'il y a faute, il faut bien qu'il y ait des excuses, mais également voir les solutions qu'on peut envisager ensemble pour régler un certain nombre de problèmes.
C'est un problème administratif, ajoute le ministre de l'Emploi. Il y a des points de consensus, les autres restent des sujets de négociation, les autres, dont la situation des enseignants et des médecins, conditions pour éviter une nouvelle grève syndicale en Guinée, Conakry. Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Ici aux États-Unis, une nouvelle exécution ratée relance le débat sur la peine de mort. Camille Grosdidier.
Dans l'état de l'Oklahoma, une exécution ratée par injection létale a fait que le condamné Clayton Lockett s'est débattu pendant plus de 40 minutes avant de succomber d'une crise cardiaque. L'expérimentation d'une nouvelle procédure d'injection n'a pas eu l'effet attendu. Selon les autorités, Lockett, condamné à la peine capitale pour meurtre et viol d'une adolescente en 1999, a reçu une première injection hier soir sur les 3 qui devaient composer la dose fatale. Quelques 40 minutes plus tard, il se débattait au point que le médecin a dû arrêter la procédure. La gouverneure de l'Oklahoma, Mary Fallin, a ordonné le report pour 14 jours de l'exécution d'un autre détenu, Charles Warner, qui était prévu hier soir, 2 heures après Lockett. L'Oklahoma a adopté un nouveau protocole d'injection létale. Des fabricants de médicaments opposés à la peine de mort refusent de vendre leurs produits aux autorités pénitentiaires. Lockett et Warner avaient obtenu en mars le report de leurs exécutions, faute d'anesthésiant pour les intraveineuses. L'Oklahoma a fini par réussir à s'approvisionner, mais les nouveaux produits ne semblent pas donner les résultats escomptés. Rappelons que les exécutions capitales connaissent une baisse significative aux États-Unis. Cette année, seuls 9 États ont appliqué la peine de mort. Le Texas détient toujours le record du plus grand nombre d'exécutions, suivi par la Floride. Selon le rapport annuel du Centre d'information sur la peine de mort, 39 condamnés ont été exécutés en 2013. C'est la deuxième fois en 20 ans que le nombre d'exécutions passe sous la barre des 40.
Un thème que vous connaissez bien, c'est celui de notre page des sports et nous accueillons Nicolas Pineau dans ce studio. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Timothée.
Alors Nicolas, nous allons parler de football et nous allons nous rendre en Europe pour la Ligue des Champions.
Et la dernière demi-finale oppose l'Atlético Madrid contre Chelsea, 1-1 à la mi-temps en Angleterre.
Après un début de match très fermé, la situation s'est débloquée en fin de période. Si les Blues ont ouvert le score, ils ont cependant concédé à la suite d'une erreur défensive une égalisation très rapide et devront donc marquer à nouveau pour se qualifier. Timothée, on rappelle qu'hier, il y a eu un véritable récital du Real de Madrid dans l'autre demi-finale qui a lourdement battu 4-0 le tenant du titre bavarois, le Bayern de Munich. Et donc, si l'Atlético l'emporte, on aura évidemment une finale 100% espagnole.
Et le Bayern, Nicolas, qui n'en menait pas large hier sur sa propre pelouse. Autre Ligue des Champions sur le continent africain cette fois-ci.
Le tirage au sort a eu lieu hier au Caire pour la phase de poule. Les Congolais se retrouveront dans le même groupe. Ah, l'épouvantail, les Corbeaux de Mazembe, Lubumbashi face à l'AS Vita Club de Kinshasa. Sans oublier le Zamalek du Caire et El Hilal du Soudan. Dans le groupe B, même scénario qui verra s'affronter les deux derniers représentants tunisiens, l'Espérance de Tunis, le CS Faxien, et on ajoutera les Algériens de Sétif et les Libyens d'Al Ahly Benghazi.
Une triste nouvelle dans cette page de sport. Au Gabon, c'est ce mercredi que le corps de Sylvain Azougui sera rapatrié au Bénin.
Et oui, il y a 10 jours, Timothée, le gardien de but de l'AC Bongoville, avait trouvé la mort sur le terrain. Le Béninois avait été touché à la tête à la suite d'un choc avec un attaquant du CMS. Il est donc transféré aujourd'hui au Bénin.
Ici aux États-Unis, les playoffs de la NBA se poursuivent, Nicolas.
Eh oui, battu une quatrième fois par Washington, 75-69, Chicago est éliminé. Alors c'était la fête évidemment, Timothée, dans la capitale fédérale américaine. Il faut noter que c'est la première fois depuis 2005, une éternité en sport, que Washington passe le premier tour des playoffs.
Ça fait presque un siècle que nous attendons cette prestation.
Et oui, tout à fait. Et puis, évidemment, il y a eu 2 autres matchs hier soir. L'affiche entre Oklahoma City et Memphis est bien incertaine. Depuis le début de la série, les victoires sont alternées d'un match à l'autre. Et cette fois, c'est Memphis qui mène 3-2 après son succès sur le parquet d'une Thunder en prolongation 100-99. Et puis, on en parlait tous les deux hier, Timothée. Après, évidemment, l'ouragan de l'affaire Sterling, les propos racistes du propriétaire des LA Clippers. Eh bien, les Clippers ont réagi en battant Golden State 113-103. Ils ne sont plus qu'à une victoire de la qualification.
Nico, les Clippers qui ont fait preuve d'un mental de fer après cette histoire de Sterling.
Et oui, puis peut-être que justement, ça va les pousser très très loin. Justement, dans l'adversité, on se révèle parfois.
Merci Nicolas.
Allez, c'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. L'air prisme Morgane est loin d'être terminé. Je parle en effet de Katy Perry qui enchaîne. Après ses chansons Roar, Unconditionally et Dark Horse, la pop star vient de dévoiler le clip de Birthday.
Katy Perry qui fonce, qui mène sa carrière à toute allure.
Ah oui.
2 mois seulement après la mise en ligne du clip Dark Horse, la chanteuse américaine est déjà prête pour tourner la page.
Ça c'est sûr Morgane, en effet, le titre Birthday a été choisi pour poursuivre l'exploitation de l'album Prisme, déjà défendu par le hit mondial Roar et la ballade Unconditionally. D'après les propos de son manager sur Twitter, Birthday devrait sans souci booster les ventes de l'album Prisme écoulé à plus de 2 millions 700 000 exemplaires depuis la sortie en octobre dernier.
I'm
Voilà, Katy Perry, birthday. Merci Roger.
Doria Morgan, t'aimes bien la voix, non, n'est-ce pas, de Katy Perry?
Un peu aiguë à mon goût.
Ben écoute, non.
Les voix un peu posées, là, les voix nasillardes à l'américaine, ça me...
Ça te dit rien, c'est
non,
ça.
Non,
ben,
non.
Ben, c'est honnête.
Mais ça se danse bien.
Ben ça, ben, exactement, voilà. C'est l'essentiel.
Faut pas écouter, faut ben, pas voilà. Y penser. Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec
et Timothée de Langbaille.
À demain.